Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Années qu'on se connaît. Moi, j'étais encore jeune marié, que j'avais entendu à la radio qu'il faisait une conférence dans un cégep quelque part au nord de Montréal. Puis j'étais monté de Granby pour aller l'écouter. Puis il était venu aussi à mon église, puis il nous avait donné un livre, Si les animaux avaient la parole. Puis il nous encourageait, dès que j'étais arrivé au Seigneur, à défendre notre foi de façon logique. Puis qu'on ne vient pas d'une explosion, puis qu'on a vraiment un Créateur qui est merveilleux, puis qu'on peut l'apprendre à le découvrir au travers de sa création. Puis, à chaque année, ben, à la rentrée, on a décidé que, puisqu'à l'école, ils nous bombardent, qu'on vient d'une explosion, puis que les singes, on descend du singe, puis que le singe descend d'où? Il descend de l'arbre. Bien, on s'est dit, crème, puisqu'on est challengé beaucoup à l'école, puis que c'est la mère nature qui a fait tout ça. Puis, tu sais, Steph, elle étudie justement, en biologie, puis les profs, des fois, ils disaient, la nature a-tu bien fait ça, tu sais. Puis, ils s'émerveillent tout le temps quand ils découvrent le corps humain, tu sais. Puis, ils disent, la nature, elle a-tu bien fait ça, tu sais. Puis Laurence, il avait amené dans une conférence que j'avais été, il avait dit, c'est quoi la différence entre un bout de bois qui est à terre dans une forêt puis un bout de bois qu'il y a des ligaments d'animaux avec une roche qui a été aiguisée en pointu? Il dit, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, il dit, l'un, c'est le résultat du temps, puis l'autre, c'est le résultat de l'intelligence qui a façonné, tu sais, qui a pris un ligament d'animal, qui a fait une flèche avec ça, qui a aiguisé. Puis il donnait des petits arguments si simples, mais pourtant tellement évidents. Quand on regarde le corps humain, ou bien non, comment la création est faite, c'est sûr qu'on a un créateur, un designer de cette création-là. Donc, sans plus attendre, Laurence, j'ai juste entendu dire qu'il était pasteur d'une église depuis 9 mois, si tu veux nous en parler un petit peu. Et puis, lui et sa tendre épouse, Lucie, dirigent une église que je ne sais pas c'est où, tout ça. Fait que je n'ai pas eu le temps de te parler avant le rassemblement, mais j'ai hâte que tu nous en parles et que tu apportes la parole ce matin. Donc, bienvenue, Laurence, on t'accueille chaleureusement.
Merci, Pasteur. Ça me fait plaisir, vraiment un grand chaud au cœur de venir ici. C'est vraiment une joie toujours pour moi de pouvoir partager la parole, que ce soit dans ma propre église ou que ce soit ici ou ailleurs. Mais ici particulièrement parce qu'on a des places qu'on revient puis on reconnaît les personnes puis c'est des amis. Des fois, comme dans la fin du mois, je vais aller une semaine en Alabama faire des conférences à différentes places et c'est sûr que je ne connais personne sauf ceux qui m'ont invité. Donc ça, c'est un peu. Puis je ne les verrai probablement pas après non plus. Pendant qu'ici, je reviens chaque année puis je revois les mêmes personnes puis ça fait chaud au cœur et c'est bien. Donc j'apprécie à ce moment. Merci pour les prières pour mon père qui est allé au ciel il y a 2 jours, vendredi soir. C'est sûr, c'est toujours un choc, il y a un deuil à vivre et sa maladie était très courte. Mais ça fait penser à l'éternité, ce qui est une bonne chose. On devrait plus penser à l'éternité. Juste pour finir la question de l'Église où il se trouve, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma femme Lucie, d'ailleurs, qui envoie, pour ceux qui la connaissent, envoie ses salutations. Elle n'a pas pu venir. Notre église commence un jeûne de 21 jours, là, aujourd'hui. Donc, il fallait que quelqu'un soit là pour réexpliquer puis entamer le processus. Mais, donc, elle n'a pas pu venir. Mais elle aurait aimé venir, prochaine fois, peut-être. Prochaine fois. Donc, c'est à Prévost. Ça s'appelle Centre chrétien L'Héritage. Et nous, on était juste membres de l'église. Et le pasteur m'a appelé pendant que j'allais faire des émissions à Québec, la parole vivante. En chemin, j'oublie quand j'étais dans l'auto, il appelle, il dit, je quitte dimanche. Veux-tu prendre l'église? Puis là, t'es comme, ouais, tout un transfert. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. On était juste bord. Puis on n'était pas là tout le temps parce que moi, j'ai des conférences puis je voyageais beaucoup. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. On est devenu. J'avais des cartes de créance dans l'organisation dont je fais partie, mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Oui. Ça, c'est un appel. Oui, ça, c'est. Ça, c'était vraiment un appel. Alors, c'est ça. On est. Lucie et moi, on a commencé à rebâtir l'Église. On a eu des très bons moments. L'Église est un peu plus vieille que vous. Je dirais que l'âge moyen doit être dans les 60 années, 58-60 années. Mais Dieu, il nous aime à tous les âges. Et Dieu est venu toucher autant enfants qu'adultes. Il y a des avantages et des désavantages. Des fois, les avantages, c'est que les gens sont matures chrétiens. Des avantages, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils ont des mauvais plis. Mais des fois, il faut déplier un peu. Mais ensemble, là, on travaille ensemble comme un groupe. Il y a une belle unité et on a vu, on commence à voir des résultats de nos efforts. Les chrétiens sont en train de grandir. Même notre réunion de prière le mercredi, ça c'est pour moi, ça me fait chaud au cœur. La réunion de prière le mercredi, c'est plus que 40% de l'Église qui vient tous les mercredis. Ce que je m'y attendais. On avait comme 6-7 personnes, là on a comme 22 personnes. Et tous les mercredis. Donc ça c'est vraiment quelque chose pendant l'été. Et on a eu quand même 7 miracles, des choses qui sont arrivées. 11 miracles. On prêche que le royaume de Dieu vient sur terre, puis on prie pour les gens qui sont malades. Puis naturellement, à cet âge-là, on a l'opportunité de prier pour les gens malades. Mais on a eu des beaux moments d'art. Lucie, je suis un peu envieux sur elle. Elle a prié pour une dame, Suzanne, qui a 83 ans, je pense. Et elle a avancé pour prière, pour autre chose, on a prié. Mais en retournant à sa chaise, elle était sourde dans une oreille et sa sourdité était complètement guérie instantanément. Et elle était allée voir le docteur puis elle dit, je voulais confirmation parce qu'elle m'entendait mal. Donc, elle est venue à mercredi puis là, sa confirmation, à part du docteur qui dit, tu n'as plus de problème dans ton oreille, elle dit, mais là, je t'entends. Alors, ça, c'est quelque chose quand on voit Dieu agir comme ça. Alors, on va parler un peu de voir, pas voir, qui est beaucoup plus important que qu'est-ce qu'on pourrait croire. Et ça vient dans mes débats. Récemment, j'étais à Rimouski, où est-ce que j'étais supposé faire un débat dans une taverne qui s'appelle le bien et le malte. C'est une drôle de chose. Et ils sont ouverts à des événements, et j'étais là, il y avait un prof d'université, de l'université de Rimouski, qui a désisté 24 heures avant que j'arrive. Donc, tout était organisé, les annonces sont faites, tout, mais il désiste, il refuse de débattre sur l'origine de la vie 24 heures avant qu'on arrive. Donc, on va faire l'événement quand même. Et dans l'événement, il y a 3 profs d'université qui sont venus. C'est facile à voir qui ils étaient, parce que c'est les seuls qui n'applaudissaient pas quand on m'introduisait. Et il y avait beaucoup d'autres bords, mais c'est les seuls qui... Puis les autres sont assis là, OK, tout le temps. Et quand c'est venu le temps des questions-réponses, il y en a un qui a... explosé. J'appelle ça en guillemets explosé. Parce que de temps en temps, je vois des profs, et c'est un phénomène que j'ai vu depuis 25 ans de faire ça, des conférences, où est-ce qu'on se demande à quel moment il y a une prof d'université ou cégep qui va exploser. Exploser, ça veut dire qu'il perd le cap, il perd le contrôle, il commence à crier tout fort, puis souvent, il sort de la salle en courant. OK? Souvent. Dans ce cas-ci, il ne pouvait pas sortir. Mais il était debout, en train de crier, les bras dans les airs. Il avait vraiment perdu le contrôle. Et une des choses qui est venue sur la discussion, c'était l'œil. Parce qu'il disait que j'avais mal représenté Darwin. Donc, on va regarder un peu l'œil, parce que Darwin en parle dans son livre. Et on va voir comment c'est essentiel, on va voir comment ça fonctionne. Et on va voir un peu le côté théologique de l'œil. Parce qu'il y a un côté théologique très important où ça concerne l'œil qui dépasse. Donc, oups, ça c'est... Bon, est-ce que comment... Comment je fais pour avancer? Comme ça? Ah! On peut-tu avoir du son? Donc, ça, c'est un petit vidéo au début. Peut-être baisser les lumières, sinon... Donc, si tu veux enlever les lumières, les gens vont voir mieux. Ça a-tu arrêté tout seul, Juliane? Ou? OK. Donc là, c'est... 4 personnes qui sont en train d'attaquer là, une bijouterie, puis une grand-mère de 76 ans qui les voit, et elle les attaque avec sa sacoche. Elle les met en fuite totale. Regarde, ils perdent la motocyclette, tout. Bon, ben c'est, moi, j'ai une église de grand-mère comme ça. <C'est>... Regarde, ça vient. Bang, bang. Elle, il n'y a pas de question que elle les voit, puis elle dit non, non, non. Un grand-mère, 76 ans, fait partir quatre voyous. OK. Donc, il y en a qui sont arrêtés. Alors, je voulais juste montrer. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit des choses puis on a la motivation en arrière, qu'est-ce qu'on voit? La prochaine chose que je vais montrer, c'est un vidéo qui est récent. Je vais essayer de montrer. C'est-tu moi qui pèse le mauvais? J'essaie. Ah, OK. Là, on peut mettre le son. Donc, c'est en anglais, mais ça, c'est un monsieur qui ne voyait pas. Il avait une maladie dans les yeux. Et il y a eu une opération de nouvelle technologie pour le guérir, qui prenait un implant. Et c'est pas clair parce que c'est du VHS, mais ils ont utilisé des cellules souches adultes pour régénérer les cellules qui ne fonctionnaient pas. Donc, il n'a jamais vu sa femme. C'est sa femme. Il n'a jamais, ou c'est sa sœur, il n'a jamais vu ses enfants. Donc, on peut imaginer un peu le scénario. Là, il ouvre ses yeux et pour la première fois, il est capable de voir. Donc, tu peux imaginer comment ça change des choses, être capable de voir. On prend ça pour acquis nos yeux. Mais lui, il était aveugle, puis là, il voit sa femme pour la première fois. Et il voit ses enfants pour la première fois. Eux, ils n'étaient pas aveugles. Donc, les yeux donnent un sens, ajoutent à un sens de notre monde qui nous entoure. On va l'arrêter, Juliane? Juste l'arrête pour le moment, puis on va sauter à la prochaine, mais pas tout de suite. Donc, les yeux, ils prennent de l'information et ils vont le gérer. On va gérer cette information-là, mais ça augmente notre connaissance de ce qui nous entoure, hein, les yeux. Si tu es fermé, tu vas utiliser les oreilles, tu vas utiliser d'autres sens, mais les yeux sont vraiment peut-être 75% de... Ouf! Non, laisse les lumières baisser encore, parce qu'on a une autre vidéo. De toute façon, moi, je ne suis pas trop important. Là, parce qu'il y a l'écran est plus important. Ou je peux venir en bas si c'est plus facile de voir. Alors, ce qui est important, les yeux, on va voir même un bébé, là, les yeux sont 75% de la taille adulte. Ça, c'est bien. Et les pupilles d'un bébé sont très grands parce qu'il faut qu'il absorbe de l'information et le cerveau commence à créer une base de données de qu'est-ce qui est quoi. Et imagine quelqu'un qui est aveugle toute leur vie, qui ouvre, qui voit. C'est plein d'informations qui n'étaient pas là avant, que nous, on prend pour acquis. Il y a même de l'information que le cerveau prend qui est beaucoup sur le côté. Comme si tu regardes droit en avant, si tu me regardes, mais tu te concentres sur le côté, vous êtes capable de voir sur le côté. C'est moins clair, mais vous êtes capable de le voir quand même. C'est très grand. Et toute cette information est gérée par le cerveau. C'est un système ahurissant, un système qui va créer qu'on a été créé, comme qu'on va voir dans quelques instants. OK, là, je vais vous montrer quelque chose qui est un réveil. Vas-y, tu peux jouer. Un réveil où est-ce qu'il y a un prédicateur Dieu lui a dit, je suis en train de guérir cette jeune fille-là, puis il prie pour des gens, et cette fille-là est aveugle dans un œil. Et presque aveugle dans l'autre. Mais elle est complètement aveugle dans l'un, presque aveugle dans l'autre. Et là, il l'explique. On peut le mettre un peu plus fort. Elle voit très peu dans son œil gauche. Puis elle est celle qui l'accompagne. C'est comme elle est payée pour l'accompagner. Donc, elle veut voir comme tout le monde. Puis elle a sent Dieu l'a dit de l'amener à cette réunion-là. Alors, il prie pour elle. Il impose les mains. Et dans le nom de Jésus, là, on va voir quelque chose, tu vas le voir progressif. Et tu vas voir sa réaction, là. C'est progressif, regarde. Là, il commence à réaliser. OK. On peut l'arrêter, Julienne. Elle va juste expliquer qu'elle est capable de voir. Donc, c'est sûr que des miracles comme ça, ou des changements, que ce soit médical ou divin, ça démontre la puissance des yeux. Hein? C'est vraiment grand, le fait qu'on peut ou peut pas voir. Dans son cas, elle était guérie. Donc là, on va voir si on peut faire fonctionner ça. Julienne, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est moi qui pèse une mauvaise chose ici? Je ne pense pas. Es-tu allumé? Ah, mais là. Peut-être que ça va marcher mieux si je l'allume. Ah! OK. OK. Maintenant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Hein, Marc 10, 46 à 52. On va parler de ces versets-là tout à l'heure quand Jésus a prié pour un homme aveugle à Jéricho. On va parler sur les yeux avant pour comprendre, pour bien comprendre qu'est-ce que Jésus a fait à Marc 10, où est-ce qu'il a prié pour Bartimée. Il faut comprendre les yeux. Donc, on va commencer par, là, je pense qu'il y a une vidéo, il y a quelque chose? Non, on est en train, ah, c'est moi qui recule ou quoi? Non, continue. Est-ce que je suis en train de reculer, c'est moi qui le fais? OK, je comprends. Bon, là, on va expliquer un peu. Et j'ai-tu un laser là-dessus aussi? Oui, même verte. OK, donc, l'œil est composé de plusieurs organelles qui fonctionnent ensemble. Ça, c'est super important. Tu ne peux pas avoir juste une lentille au milieu de nulle part. Tu ne peux pas avoir juste une zone nourrissante. Tu ne peux pas avoir juste le cornée. Tu ne peux pas avoir tout ça, il faut que ça fonctionne ensemble. Et on va revenir là-dessus parce qu'un des arguments des évolutionnistes, c'est qu'on peut évoluer l'œil humain à partir d'une cellule photorécepteur. Et on va regarder que c'est pas vraiment possible. On va voir pourquoi. Mais ça, c'est l'œil. On va faire une petite exploration dans l'œil et on va voir une vidéo aussi là-dessus. Donc, on a l'œil et vous avez naturellement deux yeux. C'est une des rares places où est-ce qu'on peut voir des nerfs. Normalement, on ne voit pas les nerfs. Ici, on voit les nerfs parce qu'il y a 250 millions de nerfs par œil qui sont connectés au cerveau un pour un. Ça veut dire que tu as un lien. Chaque photon qui vient de la lumière, chaque photon qui est analysé par votre œil, le signal est envoyé à votre cerveau par photon. OK? On sait par la lumière qu'on voit sur un écran d'ordi, etc., il y a des pixels, hein? Il y a des petits points, là. Des fois, les pixels brûlent, puis tu as comme un point noir sur ton écran. Bon, là, c'est des photons, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que ça. Et l'œil analyse chaque photon qui frappe. Le cerveau analyse chaque photon qui est visualisé sur l'œil. Il y a aussi une section ici où il y a naturellement la lentille. Ce qui est spécial ici, c'est que tu as une lentille faite de cellules, mais qui est plus claire qu'un verre de contact. Alors, on va regarder comment ça se fait qu'on a des cellules. C'est plein ici. Comment ça se fait qu'on a des cellules qu'on peut voir à travers, mais qui sont vivantes? On va regarder comment la cornée fait. Comment ça se fait qu'on voit à travers? Comment on peut passer à travers de quoi qui est vivant? Et ce soit aussi clair, plus clair que du vitre. Donc, ici, on a aussi les muscles qui contrôlent et qui étirent la lentille et qui fait qu'on peut faire un focus. Il y a aussi des muscles qui contrôlent l'œil au complet. Et naturellement, il y a une question d'analyse. On va voir que l'image, donc les photons qui viennent sur le côté gauche de l'œil, des deux yeux, viennent. Comme ici, il y en a une partie qui va aller là, puis il y a une partie qui va aller ici, il y a une partie qui va aller là, puis il y a une partie qui va aller ici. Donc, non seulement l'image est à l'envers dans l'œil, mais le cerveau a besoin de quatre places différentes d'arranger l'image pour que ce soit une image. Parce qu'en fait, il y en a quatre images. OK? Très, 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 très complexe. Et beaucoup plus juste de noir, blanc et noir, parce que nous, on voit multiples couleurs. Hein? Donc, il y a toute la question de couleurs. Donc, on voit les canaux nerveux ici. Naturellement, il y a plus que ça, l'œil, qu'on va voir. Il y a toute la question des paupières, qui sont super importantes à l'œil. Et on va regarder tout ça dans quelques instants. Donc, on va partir de la vidéo. Avec le son, c'est en français? Alors, on peut voir comment la complexité du système oculaire, le système visuel humain, qui n'implique pas juste les yeux, mais le cerveau, puis juste cela devrait être la fin de la théorie de l'évolution. Honnêtement, c'est pas pensable d'évoluer. Si vous ne pouvez pas faire apparaître les yeux sans le cerveau est pas, il faut qu'il emmagasine l'information. Même si pourquoi le cerveau aura la capacité d'emmagasiner l'information qu'il ne reçoit pas encore? S'il n'y a pas de Dieu. Vous comprenez la difficulté? avoir tout ça qui arrive en même temps, c'est presque ridicule de suggérer que c'est possible. Puis on va regarder comment ils vont s'y prendre, mais on va aussi développer un peu plus cette histoire-là, parce qu'on n'a pas fini. Charles Darwin a écrit au sujet de l'œil qui est contrôlé par le cerveau, que l'évolution par la sélection naturelle, il dit, apparaît, je confesse, librement, absurde à un degré extrême. Donc, il va dire ça, presque à deux places dans son livre « Origine des espèces » et en chapitre 6. Et après ça, il va essayer d'expliquer comment on a l'œil quand même. Il va prendre une 45 pages à peu près pour essayer de dire pourquoi on a l'œil. Et quand j'ai fait le débat Rimouski, ils m'ont critiqué parce qu'ils ont dit « t'as mal cité Darwin ». Oui, il dit ça, mais après, il l'explique. Puis la même chose m'est arrivée quand j'étais en Colombie-Britannique, à l'Université de Colombie-Britannique, à Kelowna. Il y a des athées qui étaient là, puis ils ont dit « Ah, t'as mal cité Darwin, c'est pas ça. » Oui, il dit ça, mais après ça, il l'explique. Non, ils ont mal lu. Parce que la première chose qu'il dit, c'est ceci. La manière qu'un nerf devient sensible à la lumière ne nous concerne pas plus que la manière que la vie est apparue. Oh! Excusez-moi! Oui, ça nous concerne. Parce que toute notre visuelle capacité de voir dépend des nerfs optiques. N'est-ce pas? On a vu. Un système qui même passe l'information chimique, électrique. Et après, ça s'est pas passé. C'est énorme! Et Darwin dit juste, « Oh, on n'a pas besoin de s'en faire. » Ben oui, on a besoin de s'en faire. En fait, c'est la grosse... Ce qu'il faut se souvenir quand on est en train de parler avec des évolutionnistes qui croient que une bactérie est devenue humaine, c'est que souvent, on est en train de parler, puis c'est comme si on parlait à deux choses différentes. On parle comme ça ou comme ça. Et la raison, c'est que nous, on est intéressés à l'origine des choses. Parce qu'on a un créateur. Eux, ils ne croient pas dans le créateur, donc pour eux autres, tout a toujours existé, puis c'est juste des changements graduels, toujours. Mais c'est très, très important, ça. Darwin, il fait exactement ça. Il dit, « Ah, l'origine de la vie, ce n'est pas important. » Non, l'origine de la vie, c'est très, très, très important. Comment on va de non-vie à la vie, c'est comme la clé de la discussion. Ce n'est pas une question de comment on peut changer une bactérie dans une autre bactérie. C'est comment on fait pour avoir la bactérie pour commencer la discussion. Ici, c'est la même chose. Comment on fait pour avoir un nerf optique quand il n'y en a pas? On se rend compte, les bactéries, ils ne voient pas. Ils n'ont pas les nerfs optiques. Donc, il faut faire apparaître le nerf optique. Et lui, il dit juste, « Ah, oh, ce n'est pas un problème. Ouais, » ben, c'est un problème. Alors, est-ce que ça existe des photorécepteurs simples? Et c'est des petites choses que peut-être tu n'as pas vues avant, là. Pour l'évolution, il faut toujours reculer comme aux bactéries. Les premières ancêtres communs, ce serait comme des bactéries. Alors, il y a des bactéries qui ont du rhodopsine, qui est un élément qui est dans les bâtonnettes, qui sont capables de voir le noir et blanc qu'on a vu, là. Mais le bactériorhodopsine, c'est pour définir le blanc et noir. En fait, rhodop, ça veut dire rouge-violet, parce qu'il y a des algues qui ont cette couleur-là, c'est du rhodopsine qui cause cette couleur-là. Donc, ça vient du grec. Mais, en fait, ils sont utilisés pour l'information pour envoyer le noir et blanc. Et ça, c'est une cellule. Vous avez vu un petit peu dans le diagramme, dans la vidéo. Donc, tu as toutes sortes de sections ici. Et toutes ces plaques-là ont des plaques dans lesquelles il y a des pompes. Et des pompes qui sont activées par des photons de lumière. Par photons. Donc, déjà, il y a une organisation plutôt... Ce n'est pas juste une simple cellule photorécepteur. Là. Il y a vraiment beaucoup. Pour être capable de capter de l'énergie, là, c'est quelque chose. L'énergie pure. Et naturellement, tu as tout le système, le nucléus, le centre, les Golgi, qui sont l'énergie, le centre d'énergie, les mitochondria, excusez-moi, le centre d'énergie. Tu as le système pour enlever les déchets. Parce qu'on a besoin de nourrir toute cette partie-là qui est en train de prendre de l'énergie. Donc, une cellule... On ne peut pas juste avoir une partie de la cellule. Tu as besoin d'avoir tout le système pour que ça fonctionne. Alors, puis naturellement, il faut qu'il soit attaché à quelque chose puis qu'il sache comment envoyer un signal, etc. On va regarder un petit peu plus proche. Oups. OK. Donc, il y a des pompes de protons, des pompes d'ions, des canaux d'ions et des capteurs de lumière. Ça, c'est le simple photorécepteur. Simple, on met dans... La question, c'est même pas si on peut évoluer l'œil. Est-ce qu'on peut même évoluer une façon de gérer rhodopsine? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut vraiment, parce que ça, c'est la bactérie, là, c'est supposé être le début, et pourtant, c'est déjà extrêmement complexe. Vous avez plus que 7 différentes processus pour arriver à générer une charge électrique qui est avec du sodium. Donc, il est ouvert ou fermé. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est, en fait, je pense que j'ai une image qui est plus grande. Oui, ici. Donc, on commence avec le photon de lumière qui frappe les disques qui sont déjà préfaits, naturellement. Et là, il y a un choix. Si ça va générer une lumière ou non, dépend de la réaction chimique qui va se faire. Et à la fin, il y a une pompe ici qui implique du sodium ou du calcium. Et il va être ouvert ou fermé. Il est ouvert si c'est lumière, puis c'est fermé si c'est... ouvert si c'est noir, puis fermé si c'est lumière. Alors, ça, c'est dans chaque... Ça, c'est pas le bâtonnet au complet, là. C'est juste chaque rhodopsine qu'il fait. Et il y en a plein. Alors, on voit ces systèmes-là sur des étoiles de mer. Ils ont ça, des algues, certaines choses qui ont du... Mais l'affaire, c'est comment on fait pour évoluer ça? On ne peut pas évoluer ça un morceau à la fois. Il faut que toutes ces règles... S'il fait juste la moitié, il est inutile. Vous comprenez? Il n'y a pas le signal. Naturellement, même là, c'est bien beau avoir un signal électrique, il faut faire quelque chose avec le signal électrique. Déjà, c'est incroyable de penser que ceci aurait évolué. Mais que, imaginez qu'on a de l'information qui est utile après, ça, c'est une autre affaire complètement. Alors, malheureusement, en français, les images ne sont pas aussi bonnes, donc il a fallu que j'en prenne en anglais. Mais là, vous avez encore votre cône et les disques qui vont gérer. Et après ça, tu as un transmetteur avec des chimiques qui vont transmettre l'information. Et ça se fait rapidement, là. On parle des photons de lumière, c'est hyper rapide. Donc, tu as l'énergie et la lumière. Naturellement, il te faut une membrane plasmique qui va tenir le protéine en place. Donc, il tient en place. Et t'as ça, c'est plus dans nous. C'est pas de bactéries, c'est nous. Là. Mais c'est le même processus en termes de conversion d'énergie en information. Alors, il y a une perméabilité. Ça change la perméabilité de la membrane. Bon, je n'embarquerai pas au complet là-dedans. Ça pourrait être un cours au complet. Et je ne suis pas nécessairement spécialiste là-dedans, mais on pourrait le faire. Mais ce n'est pas ça le dimanche matin. C'est un peu tôt le matin pour faire ça. Alors, là, ma question, c'est est-ce qu'on peut évoluer vers le rhodopsine dans nos yeux? Est-ce qu'on peut aller de bactériorhodopsine à celui qu'on a dans nos yeux? Mais c'est sûr, même sur Wikipédia, Dieu il fait des choses juste pour aider les gens à croire en lui. Peut-être. L'article est ici, hein, mais tu ne le vois pas, si tu vas sur rhodopsine en anglais, c'est en Wikipédia, il dit « Quoique tous les bactériorhodopsines, qui sont supposés être les ancêtres, hein, ont une homologie séquentielle génétique. » Ça veut dire qu'ils se ressemblent génétiquement. Le code génétique qui code pour le rhodopsine, le photorécepteur, semble être pareil pour toutes les bactéries. Ils n'ont pas d'homologie séquentielle génétique avec les familles de récepteurs couplés aux protéines G à qui les rhodopsines visuelles animales appartiennent. Ça veut dire que nous, on a un système aussi qui utilise les rhodopsines, qui est pareil, mais ce n'est pas les mêmes gènes qui le codent. Oh! Si ce n'est pas les mêmes gènes que le code, comment on fait pour savoir qu'on vient de ceux des bactéries? En fait, si ce n'est pas les mêmes gènes qui le codent, on ne vient pas des bactéries qui ont le rhodopsine. Comprenez? S'il y a un lien ancestral, c'est comme, normalement, comme Simon, il doit avoir une certaine ressemblance avec son grand-père. Normalement. Tu vois, il y a une certaine quantité de code génétique qui se transfère de génération en génération. Donc, si on reculerait encore plus loin, éventuellement, on va trouver Noé. Là. On ressemble tout un peu à Noé et ses enfants. Mais ici, il faut qu'il y ait un lien génétique entre qu'est-ce qu'on a maintenant et qu'est-ce qu'il y avait dans le passé pour que l'évolution soit vraie. Puis ils disent, non, il n'y a pas de lien. Alors, non seulement on n'est pas capable d'évoluer les yeux maintenant, on ne peut même pas évoluer les yeux, les photorécepteurs bactéries, des bactéries, et on ne peut pas démontrer qu'il y a un lien entre ces bactéries et nous, à travers le système de visuel. Ça me rappelle le psaume 139:14. C'est une des raisons, je crois, que Dieu crée les yeux. « Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Une façon qu'on peut reconnaître les merveilles de Dieu, c'est sûrement à travers nos yeux. Ce que cette étude va faire ce matin, et il y a une petite prêche aussi, message, c'est que ça va nous amener à dire de Dieu « Wow! Wow! » Des choses que je ne savais pas, là, que j'utilise tous les jours, tu as dû faire. Ça prend de l'intelligence. On ne peut pas avoir ça par hasard. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour voir? On veut prendre la lumière Et c'est quoi la lumière? Mais la lumière, c'est des paquets d'énergie qui se déplacent en forme de vagues. Déjà, si tu avais une tâche, tu étais gestionnaire de projet, comme moi je suis gestionnaire de projet senior, ils disent, OK, voici votre tâche. Capter de la lumière qui se déplace tout le temps. Et il dit en plus, vibration d'énergie pure sans substance matérielle. Il n'y a pas de matériel, c'est de l'énergie pure. OK. Spécial. Et en plus, il va falloir la couleur, ce qui c'est des variations d'absorbe. Donc, la façon que tu absorbes cette énergie pure va déterminer la couleur qu'on va voir de tout ce qui nous entoure. OK, ça, c'est la tâche. C'est le but. Mais il y a plus que ça. Le but, au fond, c'est l'information. C'est bien beau capter quelque chose, mais si ça ne nous dit rien, ça ne sert à rien, le système. Alors, ce qu'il faut faire, un, c'est capter l'énergie pure par photon. Il faut traduire les variations en information compréhensible. Et après, il faut gérer cette information-là. Je ne sais pas si vous avez entendu, parce qu'il y avait beaucoup de mots dans la vidéo, mais la dame a dit il y a une association qui doit se faire pour qu'on puisse voir. C'est pour ça que les personnes qui donnent des témoignages de ce qu'ils ont vu, ils donnent des versions différentes, c'est parce que qu'est-ce qu'ils ont vu est toujours associé à quelque chose qu'ils ont déjà dans leur cerveau, une mémoire. Et c'est ça qui arrive pendant que l'enfant grandit. Il crée cette banque de données. Alors, il faut gérer cette information. On voit comment les pupilles sont grandes sur ceux d'un enfant? Il absorbe une incroyable quantité d'informations. Il est en train de créer une banque de mémoire pendant ses premières deux, trois années. OK. Dawkins est l'AT le plus connu sur le globe présentement, je pense. En tout cas, il est plus publicisé. Il dit quelque chose d'intéressant concernant le cerveau qui génère toute cette information. Il dit, c'est presque comme si le cerveau humain a été spécifiquement développé pour mal comprendre le darwinisme. La conclusion que nos cerveaux semblent être prédisposés de résister au darwinisme vient du grand succès que nous avons eu comme designers créatifs. Notre monde est rempli de travaux d'ingénierie et d'art. Ouais. Peut-être c'est parce qu'il y a une intelligence en arrière de notre cerveau. Ils ont dit que on prend tous les nerfs qui sont dans notre cerveau et ça ferait le tour du globe 4 fois. Ils viennent de sortir un article en 2016. Tu sais, l'échange qu'on avait vu dans la vidéo d'information dans les synapses, ils viennent de se rendre compte que les synapses ne sont pas juste un changement chimique à énergie, qu'il y a des mini, mais il y a des tout est mini là-dedans, là, mais il y a une sorte d'ordinateur quantique qui analyse l'information qui est passée avant de le repasser. Ça veut dire que dans chacun de vos têtes, vous avez en fait plus de puissance informatique que tous les ordinateurs qui existent sur Terre en ce moment, ensemble. L'information qui est analysée continuellement par notre système, corps, etc., et par nos yeux et le cerveau, et c'est ahurissant. Et c'est drôle, hein? C'est comme si le cerveau a été développé pour nier l'évolution. Alors, parlons un peu de... On ne peut pas avoir juste l'œil. Il y a toute la question de les paupières et les glandes meibomius qui, en fait, sont là. Très important, ils envoient de l'huile sur l'œil. Et cette huile-là va sur le cornet et le maintient pour qu'elle soit lisse et transparente à tout moment. Vous avez, je pense que c'est dans les 120 fois le nombre de cellules de nerfs sensibles à la douleur dans les yeux. C'est pour ça que la moindre particule de sable qui rentre dans les yeux, pourquoi vous êtes si sensible? Parce que sinon, vous allez être aveugle. Ça va graffiner le cornet, puis vous ne sortirez pas de là. Il y a tout un système aussi en termes de comment les larmes fonctionnent pour nettoyer l'œil et garder tout cet espace ici lubrifié et fonctionnel, parce qu'il bouge continuellement l'œil. L'œil, même si on le regarde droit, il n'est jamais complètement... Il bouge continuellement parce qu'il a besoin de faire tirer de l'information en 3D. Pour faire ça, il va falloir bouger un petit peu tout le temps. En passant, naturellement, le 3D, ça affecte. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais fermez un œil, comme ça. Prenez deux doigts, comme ça, en avant, là, comme ça, et essayez de les rejoindre. Donc, ça, c'est. On a besoin des deux yeux pour faire ça parce que le cerveau va gérer ça en 3D et il est en mouvement tout le temps. Donc, toute la biopie, la façon de voir. Donc, ça, c'est un aspect que le tissu, tout ça, ça doit exister. Et on a aussi la façon, comment on fait pour avoir, mais c'est des larmes, naturellement, mais il y a plus que des larmes, il y a de l'eau sur les yeux qui vient de la glande lacrymale qui doit exister. C'est un système qui doit exister ici, qui crée une solution aqueuse qui est juste la bonne solution salée, un petit peu salée. Et naturellement, il faut l'enlever. Si ça, c'est bloqué, il y a des gens qui ont des infections sur leur visage parce que on pourrait dire mucus, mais ce mouvement ici n'est pas géré à travers le nez puis derrière la gorge. Elle tombe sur le visage puis ça ne marche plus. Il faut que tout ce système-là fonctionne, sinon l'œil ne fonctionne pas. Elle va sécher, elle va le graffiner puis elle va déchirer dans un rien de temps. Alors la cornée va être endommagée dans un rien de temps. Tout ça est très, 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 très important. Donc, ce n'est pas juste l'œil. Et là, on a toute la question de la rétine. Si on regarde un œil dans le cours de biologie, tu vas voir que c'est noir en arrière, complètement noir au fond. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que, si ce n'était pas noir le fond, il y aura un dédoublement ou triplement, il y aura des reflets de lumière. Donc, le photon arriverait puis il rebondirait, si vous voulez, avec le blanc. Tu aurais des flashs continuellement, mais l'œil est noir pour absorber toute la lumière. Donc, tu as un photon dans chaque cellule. Il n'y a pas de dédoublement, à moins qu'il y ait une maladie. Et vous avez aussi, naturellement, comme on a parlé, la cristine, la pupille, la cornée, l'humeur aqueuse, corps ciliaire ici, tout ça. Donc là, j'ai quelque chose à vous montrer. On n'a pas le temps de faire tout, mais juste parler de la cornée. Bon, la cornée est claire comme vitre, comme la lentille. Mais comment ça se fait qu'on passe à travers tous ces rangées de cellules et que ça reste clair? Et comment on fait pour les nourrir? Normalement, pour nourrir des cellules, il faut du sang. Il faut des vaisseaux sanguins. Sang dans les yeux, ce n'est pas la meilleure chose. Là. On ne voit pas à travers le sang. Mais c'est l'endothélium qui est super important ici. Naturellement, il y a tout un effet ici là aussi. Mais en dessous, le sang monte dans les yeux et toute la plaque en bas ici, l'endothélium cornéen, est un lattice qui a une sorte de sieve. Comment on appelle ça en français? Tu sais, quand tu fais de la salade, là? Une bolle avec des trous dedans? Passoire. Merci. C'est un passoire qui est tellement fine que le sang, il vient, mais il ne laisse pas passer les globules rouges, il ne laisse pas passer les protéines, il passe juste l'eau, H2O, et des minéraux. Donc, ça reste clair en haut, et il y a même un système pour l'enlever par après. Pour que ce mouvement-là soit toujours clair ici. Et ça, c'est fait comme d'une manière pour que ça puisse bouger, parce que la cornée, il s'ajuste. Donc, il est fait pour qu'il soit flexible, même si c'est des rangées, comme du plywood. Là. C'est des morceaux sur morceaux, et pourtant, c'est flexible la façon que les joints sont faits. C'est merveilleux. C'est un système de construction incroyable. On parle juste de la cornée. Alors, sachant un peu tout ça, explorons un petit peu la question de la vue dans la Bible. Et je vais concentrer un peu à la fin sur comment Jésus dit « Que veux-tu que je fasse? » Il demande à un aveugle « Que veux-tu que je fasse? » Il me semble que c'est évident. Pourquoi Jésus, tu demandes « Que veux-tu que je fasse à un aveugle? » Il me semble que l'aveugle dirait « Ben, allô, je suis aveugle. » On va regarder pourquoi Jésus a demandé « Que veux-tu que je fasse? » Donc, regardons l'importance pour commencer. Et là, je vais prendre ça. Il a fermé pendant que je fais ça. L'importance des yeux dans la Bible et comment Dieu voyait ça comme quelque chose de très, très important. OK. Deutéronome 27, 18, dans l'Ancien Testament, « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. » Donc, Dieu a mis... Ah, mais merci, bien apprécié. Dieu a mis dans les règles des gens qu'on doit faire attention des aveugles. Okay? C'est très important. Et Dieu dit, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Lévitique 19,14, et tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui ne puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est extrêmement puissant dans l'hébreu ici. Quand il parle de tu auras la crainte, c'est comme le jugement de Dieu va tomber sur toi. Il tient à cœur les aveugles, Dieu tient à cœur les aveugles et les sourds. Tu peux dire, mais pourquoi Dieu est tout souverain, il pourrait éviter. Oui, mais ça c'est parce que le jardin d'Éden, Adam et Ève ont fait un choix. Ce choix-là était de désobéir Dieu. Quand ils ont désobéi Dieu, c'est plus Dieu qui... Les règles du jeu, c'est que le mal, Satan, avait un certain contrôle sur la nature. Et quoi que Dieu peut intervenir, il se met à distance, à moins que c'est à travers une alliance. Et l'alliance avec Abraham est naturellement à travers Jésus, mais ça, c'est différent. Donc, ici, Dieu a à cœur ceux qui sont oppressés, opprimés, ceux qui sont aveugles et ceux qui sont sourds. On voit ici en Jean 9,1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et on voit comment les disciples, ils croyaient qu'être aveugle, là, c'est comme être... tu as commis un péché. Pourtant, c'est pas ça qui était dans l'Ancien Testament. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Vous voyez comment ils sont en train de dire, « Vous êtes aveugle parce que vous avez fait une faute. » Jésus, il ne dit pas ça, puis c'est pas ça qui est dans l'Ancien Testament non plus. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu lui soient manifestées en lui, parce que Jésus allait le guérir. Hein, il allait guérir, il allait devenir aveugle. » Mais il dit, « Ce n'est pas le résultat de l'aveuglement, ça n'a pas de rapport avec le péché. » Alors, regardons cette histoire, et on va rentrer en détail. Il y a juste quatre versets, quatre, cinq versets, mais très, très important comme verset sur Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, ou ce qu'on, des fois la Bible est marquée Bartimée, Bartimée, fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Moi, j'aime ça, là, on va revenir là-dessus, mais ici, ils sont en train de essayer d'arrêter, puis soudainement, « Prends courage, lève-toi, aveugle. » Plein d'hypocrites. Donc, qu'est-ce qui arrive? La première chose à réfléchir sur cette histoire, puis ce n'est pas toute l'histoire ici, c'est que on sait que Bartimée il va être guéri. C'est la fin de l'histoire. Tu pourras partir maintenant parce que c'est déjà la fin de l'histoire. Mais il y a quelque chose à découvrir qui est plus important dans cette histoire-là. C'est le processus qui est arrivé, qui a été guéri, qui est important. Premièrement, vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. D'ailleurs, Jean va dire qu'on pourrait remplir la terre de livres pour essayer de contenir ce que Jésus a fait en juste 3 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui fait que Bartimée a son nom dans la Bible? Moi, je pense que ça attire mon attention. Moi, quand je vois quelqu'un, il a droit à un name check. Il a droit d'avoir son nom dans la Bible ou il a droit d'avoir son histoire. C'est parce qu'il y a quelque chose de super important qu'on a à comprendre dans cette histoire-là. C'est pas juste la guérison d'un anodin aveugle ici. Il y a quelque chose de particulier qu'on a à apprendre. Et c'est beaucoup plus profond qu'on pense, ces quelques versets. Il est vraiment à la mauvaise place, comme qu'on va voir. On voit dans cette information, qu'est-ce qu'on voit comme information? On sait son besoin, on sait son nom, on sait le lieu, Jéricho, la position, les paroles qu'il a dit, l'action qu'il prend et le résultat qu'on va voir tout à l'heure. Hey, c'est beaucoup de choses dans la Bible pour que ça soit écrit. Et ça vaut la peine de juste... OK, on va regarder ça plus proche, qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire-là, et comprendre comment ça peut avoir un lien avec nous. Première chose, il est vraiment pas à la bonne place pour recevoir un miracle. Il n'est pas à la bonne place. Il est à Jéricho. Jéricho, c'est la ville que quand les Israélites ont passé l'autre côté du Jourdain, quand ils ont rentré dans la terre promise, c'est la ville qui est vouée à l'Éternel. Ils n'avaient pas le droit de garder quoi que ce soit de cette ville-là. C'était à Dieu. Après ça, c'est la terre promise. Mais ça, c'est comme le début. Lui, il est comme arrêté au début. Il est arrêté. Il est aveugle à Jéricho. Il n'est pas à Jérusalem. Il n'est pas à la grande ville. Il n'est pas à la ville du roi. Il est à Jéricho. C'est comme la place à ne pas être. Il est aveugle, il est mal placé. Et il est aveugle, il est mendiant. Comment il va voir son miracle? Dépend des autres. Il est positionné pour garder son infirmité. Il vient depuis des années à s'asseoir, à mendier. Il fait sa vie comme ça. Il n'est pas comme 12 ans, là. Il a 45 ans. Il a vécu de ce que les gens lui ont offert tous les jours. Il y avait comme une stratégie autour de ça, sûrement. Il y avait un système qui travaillait. Il y était plusieurs, probablement aveugles. Et il y avait tout un système pour essayer de survivre dans une situation où il ne peut pas travailler. C'est absolument impossible pour un aveugle de travailler dans un système agricole. Il ne peut pas voir l'argent que les gens lui donnent. Il faut qu'il sente la taille et tout ça. C'est quoi qu'ils m'ont donné? C'est un vrai, c'est une roche? C'est quoi? Il n'est vraiment pas placé. Son besoin le définit. Il est celui qui est aveugle. Il est connu comme l'aveugle. Combien ici, vous êtes tellement longtemps à combattre votre besoin que maintenant, votre besoin vous définit. Vous n'êtes plus en train de penser à la victoire. Vous êtes votre besoin. Il y a même des gens qui prennent plaisir que ce soit leur besoin parce que ça les attire de l'attention. C'est moins bon, là. Pour dire « ouch », là, ça… C'est vrai. Il y a des gens qui sont rendus à... Des fois, c'est plus facile comme ça que de battre, mais combattre. Mais là, c'est comme... Ils sont rendus, il est rendu, il est aveugle. C'est lui l'aveugle. Ce n'est pas lui celui qui va voir. Lui, il est l'aveugle. Son besoin le définit. Timé. Timé veut dire impur. Son nom, c'est fils d'impur. Hey, on parle d'avoir toutes les mauvaises cartes, là, lui, il a toutes les mauvaises cartes. Tout est contre lui. Tout ne va pas marcher avec lui. En plus, il n'y a même pas de nom en réalité. Ça, c'est le fils de. Ça, c'est le nom de son père. Ce n'est pas son nom à lui. On ne sait pas son nom à lui. Bartimée. Fils d'impur. Il n'est pas comme placé comme pour. C'est lui qui va voir le miracle. C'est lui qui va le recevoir. Mais non. C'est lui qui ne le recevra pas. Il n'a pas d'identité propre, au fond, dans cette situation-là. Il est à Jéricho, qui n'est pas la meilleure place à être, qui n'est vraiment pas la meilleure place. C'est une place qu'on passe à travers. Et, dans l'histoire, Jésus n'avait pas l'intention de le guérir. Jésus a passé, l'a passé, Jésus n'a pas arrêté avec ce mendiant. Jésus a guéri plein de gens. Et il n'a pas arrêté, il a continué tout droit. Jésus n'avait pas l'intention de le guérir. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux comprendre plus d'une histoire où quelqu'un a arrêté Jésus pour recevoir son miracle. Moi, ça m'intéresse au plus haut point. Parce que j'aime bien arrêter de Jésus qui passe. J'aime bien. OK, je suis ici, là. Moi, je veux voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, cette histoire-là, il n'est pas à bonne place pour recevoir son miracle, mais nous, on sait qu'il l'a reçu. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Il y a tout contre lui. Tout contre lui pour le recevoir. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'aveugle, 10:50, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus, et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répond l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, il y a quelque chose d'assez particulier qui est en train d'arriver dans toute cette histoire-là qu'on va regarder. Premièrement, il savait reconnaître l'opportunité de le poursuivre intensément. Lui, il est aveugle. Okay? Il n'a plus d'option, là. Il n'a plus d'option. Il reste aveugle pour le reste de sa vie. Il n'y a aucune possibilité que ça change dans sa vie. Et pourtant, on voit clairement que lui, il voit une opportunité et il ne va pas le laisser passer. Il ne va pas laisser des gens qui lui disent « Non, non, arrête de crier ». Ça, ce n'était pas une option pour lui. Ce n'était pas une option. Moi, je crois que le Seigneur nous prépare des portes d'opportunité. On a besoin de miracles dans nos vies. On en a besoin à tous les différents niveaux. Mais comment on fait pour avoir ce miracle? Mais je crois qu'on a quelque chose à apprendre de Bartimée. Le Seigneur, il va nous préparer des portes d'opportunité et il faut percer vers ces portes-là. C'était pas facile d'être un aveugle. L'affaire qu'il a faite le plus important, une des choses les plus importantes, c'est ceci. Il a relâché son présent pour saisir le futur. Le manteau qu'il avait sur lui, on va en parler un peu plus, mais le manteau lui donnait le droit de faire d'être mendiant. Quand il a enlevé son manteau, il a enlevé son droit de mendier. Et il a fait quelque chose complètement stupide pour un aveugle. Il a bondi en avant. Quand pensez-y un instant, là. Vous entendez plein de gens, vous êtes dans votre place en train de mendier, vous ne voyez rien, vous criez « Jésus, Jésus », il l'entend quelque part, puis Jésus, amène-le à moi, il va enlever son manteau et il va bondir en avant. Ce n'est pas sage qu'on est aveugle de bondir en avant. Il y a plein d'opportunités de trébucher sur quelque chose. Il y a plein d'opportunités de frapper quelqu'un. Il y a plein d'opportunités que ça va mal. Mais lui, là, pour lui, dans sa tête, le présent est fini. Jésus, j'ai entendu mon nom. Je m'en viens vers toi. Il ne laisse pas son présent dicter son futur. Il regarde avec foi. Souvent, à cause des combats de la vie qui nous attardent, qui nous rend... parce que c'est continuel, c'est tous les jours, on finit par perdre la vue de Dieu sur la situation. Quelle est la vue biblique sur la situation? Et lui, il dit, il ne va pas laisser son présent dicter son futur. Il peut bien avoir le nom aveugle, il peut bien avoir le nom de famille impure. Il dit non, 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 Jésus change tout ça. Et, super important, dans l'histoire, il fait quoi? Il appelle Jésus fils de David, pas fils de l'homme. Fils de David, il reconnaît la mission messianique de Jésus. Il est en train d'évangéliser, il est en train de crier à voix haute. Ça, c'est le Messie annoncé depuis des millénaires aux prophètes. Depuis Genèse, qui est supposé venir. Il l'appelle fils de David. Il est en train d'annoncer la mission de Jésus. Ça veut dire qu'il avait une connaissance théologique, une connaissance que Dieu lui a donnée de qui Jésus était. On se souvient quand Pierre, Jésus a dit « Qui les gens disent que je suis? » Puis on dit toutes sortes de choses. Et après, Jésus dit « Tu es le fils de Dieu. » Et tu es le Messie. Et Jésus lui dit « Il y a juste le Saint-Esprit qui a pu te révéler ça. » Là, c'est un aveugle à Jéricho. Monsieur impur. Et lui, il a cette connaissance-là révélée par Dieu. Toute une histoire ici. Et il fait fi de l'opposition qui est contre lui. Toutes ces personnes qui disent non, en fait, le plus qu'eux autres, ils mettent de la pression contre lui, qu'est-ce qu'il fait? Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il crie plus fort. Il dit, moi, là, moi je ne manquerai pas mon miracle. Mets-moi de l'opposition, je vais combattre plus fort. Ça, c'est l'attitude à avoir. Parce que c'est sûr qu'on est dans un monde où est-ce qu'il y a de l'opposition. Le mal ne veut pas qu'on gagne. La chair ne veut pas qu'on gagne. Il y a toutes sortes d'opportunités pour pas qu'on arrive à notre miracle. Mais le plus qu'on a de l'opposition, probablement le plus proche qu'on est de notre miracle. Je vous donne toutes sortes de bonnes choses ce matin. Là. Vous êtes très calme. Moi, je suis comme « wow ». Et Jésus, ça c'est cool, là. Ça c'est Dieu qui fait ça. Jésus utilise cette opposition pour l'amener à lui. Hein? Les gens qui disaient « oh, tais-toi, tais-toi, monsieur aveugle, monsieur impur, tais-toi, 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 tais-toi. Il ne veut pas rien savoir le maître. Le maître est bien trop important pour faire fi à toi. Fils de David! » Puis là, Jésus dit « amène-le à moi. » « Oh, là, tu es un bon gars, le maître veut te voir. » C'est les mêmes personnes. Dis-moi, il ne faut pas se faire confiance à l'humain. Hein? Vraiment pas. Là. Il ne faut pas croire tout ce que les gens vous disent. Il faut croire ce que la Bible dit. Il faut croire ce que Dieu met dans votre cœur. Les gens peuvent venir, des fois, ça peut être encourageant, des fois, ça peut être décourageant. Il ne faut pas mettre votre miracle dans les mains d'autres personnes. Vous voulez votre miracle, il faut qu'il reste en vos mains, en toi et Dieu. Ça a du sens? C'est important parce qu'on est vraiment influencé par les paroles que les gens disent autour de nous. On peut être influencé vers le bien, on peut être influencé vers le découragement. Mais c'est important qu'on soit, et nous, comme porteurs de flambeau, nous, comme chrétiens, comme lumière, on devrait presque toujours avoir des paroles d'encouragement pour les personnes. On devrait toujours amener des paroles de lumière, des paroles de vie pour les personnes parce que Dieu est en nous. On n'est pas Dieu. Dieu est en nous. Le Saint-Esprit en nous est en train de pour nous donner des paroles pour encourager les gens. Hey, le maître veut te guérir. Le maître veut Je ne sais pas c'est quoi, dans quel découragement vous êtes, mais je vais prier avec vous autres. On va aller ensemble devant Dieu, voir comment on peut arriver à ce miracle. Vous n'êtes pas perdus. Il y a une porte de sortie. Donc, le manteau, comme je disais, il relâche le présent pour saisir le futur. Donc, il enlève son manteau qui est fait, juste pour montrer comment c'est important le manteau, regarde ça, Exode 22, 26. « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. » C'est un règlement, là. « Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi couchera-t-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. » Vous risquez d'avoir Dieu contre vous. Si tu ne prends pas soin des questions de manteau. Ce n'est pas fini, là. Matthieu 5, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, ton manteau, laisse-lui encore ton manteau, donc pas juste la couverture, mais laisse-lui ton manteau, si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Donc, c'est important ce manteau-là. Et naturellement, dans un contexte où est-ce qu'on est proche du désert, ça peut être la vie et la mort. Et dans le cas de Barthémée, il avait besoin de ce manteau-là pour mendier. Donc, il avait comme le manteau d'un mendiant. Il fait le saut en avant. Comme j'ai dit déjà, ça, c'est comme, ça démontre beaucoup de foi. Ça démontre beaucoup de... Lui, Jésus est son miracle. Moi, je ne le manquerai pas. Et là, Jésus dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Là, on va dire, « Jésus, comment? C'est un aveugle. Pourquoi tu demandes un aveugle? Que veux-tu que je fasse? » Je vais te dire pourquoi je crois que Jésus a dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Qu'est-ce qui arrive à cet homme-là quand il est guéri? Y a-tu encore un emploi? Il vient de perdre sa carrière, sa sécurité. Il a vécu. Il n'est pas en train de mourir de faim, là, à ce qu'on sache. Il vient de. Il ne peut plus mendier. Là. Il n'y a aucun mendiant qui va recevoir de l'argent les yeux ouverts et il te voit. Okay, ça, c'est bien beau avoir le manteau de mendiant si tu es capable de voir et tu te dis que tu es aveugle. On ne sait pas que c'est. Il va recevoir bien grand-chose. Là. Alors, il vient de changer. S'il dit oui, il y a toute sa destinée qui est en train de changer. Des fois, je crois qu'on ne reçoit pas notre réponse de Dieu parce qu'on est sûr dans notre situation, parce qu'on connaît notre situation. On est habitué à certaines choses qui vont mal. On est habitué à une certaine circonstance. Et on sait que ça ne devrait pas être comme ça, mais on est habitué. Est-ce qu'on est prêt à aller où est-ce que Dieu veut qu'on aille? Parce que où est-ce que Dieu veut qu'on aille, on n'est pas habitué. Quand Dieu dit que ton royaume vienne sur terre, on n'est vraiment pas habitué quand le royaume de Dieu vienne sur terre. Notre habitude, c'est un monde déchu. C'est un combat continuel contre le péché. C'est complètement différent. Dieu, il dit, moi, je vais vous amener à une autre place. Souviens, les disciples étaient sur un bateau en plein orage. Jésus vient. Il dit, viens, il y a juste Pierre qui est débarqué du bateau. 11 disciples, on parle des 12 disciples, ce n'est pas des n'importe qui. Là. 11 des disciples n'ont pas voulu débarquer du bateau. Pierre a débarqué du bateau. Moi, je veux être de ceux qui débarquent du bateau. L'aveugle était de ceux qui auraient débarqué du bateau. C'est clair. Il ne prenait pas non pour une réponse. C'est pas une possibilité. Et quand dit Dieu, quand Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Quand on prie au Seigneur pour quelque chose, est-ce qu'on veut vraiment recevoir cette chose-là avec l'implication qui vient avec? Ou est-ce qu'on veut avoir tous nos conforts terrestres et quand même aussi recevoir ce que Dieu a pour nous? Souvenez, Dieu dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seraient ajoutées. » Oui, mais qu'est-ce que ça implique, chercher premièrement le royaume de Dieu? On veut toutes ces choses sans chercher, sans le coût que ça prend pour chercher. Ça peut être un coût matériel, ça peut être un coût de temps. Moi, ce matin, ce n'est pas pour que vous sentez mal pour moi du tout, je dis ça juste pour un exemple. J'avais accepté, je suis très, très content d'être ici, mais c'est quand même 2 heures de route. Puis ma femme est en jeûne dans le moment, l'église et tout ça. Pourquoi je suis venu? Parce que ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai mis devant le Seigneur comme mon, mon apport. Je cherchais le royaume de Dieu. Je suis en train de chercher le royaume de Dieu avec vous ici ce matin. Ça fait partie. Quand vous allez évangéliser avec les cours que Jean-Pasteur Sébastien va donner, ça fait partie de chercher le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que ça prend? Ça va prendre de ton temps. Ça va prendre de ton argent. Ça va prendre de ton avoir. Mais de toute façon, tu ne peux pas l'amener avec vous. Quand vous allez mourir, il y a juste une chose que vous pouvez amener avec vous, c'est qu'est-ce que vous avez investi dans la vie des autres. C'est la seule chose que vous pouvez amener avec vous. C'est trop pesant ce matin, c'est ça? Trop de choses. Ah, oh là, Ben! OK. Donc là il dit, qu'est-ce qui arrive quand on lit le verset? Ta foi t'a guéri. Donc, il guérit et il dit ta foi. Il n'a pas dit, Jésus, moi je suis Dieu, je t'ai guéri parce que je suis Dieu. Non, il dit, ta foi t'a guéri. Mais il n'était pas guéri avant d'arriver jusque-là. Il fallait qu'il passe toute cette opposition-là. Il fallait qu'il passe toutes ces étapes-là que monsieur aveugle impur, sans nom, arrive à voir 6 versets dans les évangiles. Quand on parle d'un livre, le livre le plus publié sur le globe. Wow! Ta foi t'a guéri. Mais là, Jésus va lui dire quelque chose. Il va lui dire, va. Hein, je ne sais pas si tu as vu ça. On pourra reculer au verset. Je vais juste reculer. Oups. Avant les manteaux. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Et aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus. Attends, là, Jésus a dit, va. Mais lui, il a suivi. Hey, il n'est pas fou. Il dit, attends là, là je suis guéri. Moi, c'est toi ma provision. C'est toi ma destinée. Il n'y a aucune question que je vais aller quelque part. Moi, j'ai fait tout ce chemin d'ici à aveugle à Jéricho, à arrêter le Fils de Dieu qui passe, le Messie qui va sauver le monde. Moi, j'ai passé à travers l'opposition, je n'ai plus de manteau de mendiant, je ne suis plus mendiant, je ne suis plus aveugle, c'est toi ma destinée, moi je te suis. Wow! Wow! Avec une détermination comme ça, on va recevoir le miracle de Dieu dans notre vie. Oups, OK. Jésus veut nous faire voir notre direction et notre provision. C'est pour ça qu'il dit, j'étais aveugle et maintenant je vois. Jésus veut qu'on le voit comme, puis voir, on va parler des yeux, je reviens là-dessus dans un instant, j'ai presque fini. Mais, Hébreux 11.1 dit que la foi fonctionne parce qu'on voit le résultat avant qu'il arrive. C'est cool ça. Il faut y penser, là, tout ce qui concerne la voix implique les yeux quelque part. Ce qui est encore plus court que ça, c'est que je suis convaincu que les yeux ne sont pas juste biologiques. Deux raisons, mais il y a plus que ça. On sait que la Bible parle de l'âme, qu'on peut voir l'âme à travers les yeux. Et j'ai vu ça. Il y a des personnes que j'ai priées pour. Je pouvais voir, c'était très, très noir. C'est comme une sorte de sentiment spirituel que vous pouvez voir à travers les yeux de certaines personnes. Pas parce que les gens ont des yeux noirs que c'est mal, mais il y a quelque chose qui sort des yeux. Il y a quelque chose de spirituel qui est dans les yeux. Et on sait que quand les personnes meurent, et on le sait parce que c'est rapporté maintes et maintes fois maintenant, est-ce qu'ils arrêtent de voir quand ils meurent? Non, leur corps, ils flottent en haut de leur corps, ils voient les personnes, ils voient les docteurs, ils voient. Mais les yeux sont là. Donc, il y a quelque chose d'autre visuel qui n'est pas juste dans le monde physique. Ça, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est incroyable. Il y a tout un côté spirituel à voir qui était exploré. Quand Dieu dit voir, il veut qu'on voit dans l'esprit. Moi, je me souviens une fois, j'étais à Indianapolis et j'avais à faire quelques conférences créationnistes. Et à la fin, il y avait une dame qui avançait pour de la prière. Et quand j'ai avancé vers elle, j'ai vu dans mon imagination, mais je n'imaginais pas dans le sens imaginer comme un enfant, là. Mais j'ai vu son genou gauche à droite guéri. Elle ne m'a rien dit. Je n'ai pas fait un appel à sa guérison. J'avance, je ne lui demande aucune question, je mets ma main sur son genou, au nom de Jésus, sois guéri. Et son genou était guéri. Et elle m'a dit, moi, j'ai entendu l'annonce, moi je viens de 2h30 plus loin, Je suis venu à cette réunion parce que Dieu m'a dit, quand j'ai entendu l'annonce de ta conférence, qu'il allait guérir mon genou quand j'arriverai dans ta conférence. C'est wow! Ça, c'est Dieu qui parle, il peut faire des choses comme ça. Mais ça, c'est voir. Comment j'ai vu ça? J'ai pas. C'est une sorte de vision spirituelle. Et je crois que Dieu veut qu'on ait cette vision spirituelle. Il veut qu'on... Il a parlé dans, comme des rêves. Il a parlé dans la Bible avec... Il y a différentes manières. On n'a pas besoin d'avoir des visions. Il y a des choses que... C'est le temps que l'Église s'approprie des choses que le Nouvel Âge a essayé de prendre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Les personnes qui sont dans les médiums, les personnes qui sont dans qui disent voir des choses. Mais non, c'est pas l'occulte, ça. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. Mais Dieu, lui, il voit des choses. Puis il veut nous être capable qu'on puisse arriver à quelqu'un, puis qu'il nous montre cette personne-là, puis il montre comment il veut bénir cette personne-là. Et on peut dire une parole, et cette personne-là est bénie tout le reste de sa journée. Parce qu'on a vu dans le monde spirituel. Donc, on peut même être complètement visuellement capable et complètement aveugle spirituellement, n'est-ce pas? Quand la Bible dit « ils sont aveugles », ils n'étaient pas aveugles en termes de science, aveugles spirituellement. Et on dit même que des fois que l'ennemi, le mal, que le Satan et ses démons aveuglent les gens pour pas qu'ils reçoivent le Seigneur. Donc, vraiment, c'est assez grand, large comme sujet quand on pense à aveuglement. Puis, donc, Bartimée, ce n'était pas juste la vue naturelle qu'il recevait, mais c'est aussi une vision spirituelle qu'il avait. Il avait même la vision spirituelle avant, côté naturel, parce qu'il était déjà en train de déclarer fils de David avant d'être guéri. Ah, il y a des choses là-dedans, hein? 6 versets, puis c'est comme, wow! Il y a vraiment beaucoup à approfondir. Donc, on a juste effleuré un petit peu. Mais quand on pense au miracle, revenons au miracle naturel, il était aveugle, il était guéri. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il soit guéri? On ne sait pas quelle sorte d'aveuglement qu'il avait. Mais, une manière ou une autre, soit son cerveau, soit les nerfs optiques, soit les yeux, et toutes les pièces manquantes ont dû être guéries d'un coup pour que lui puisse voir. Et en plus, il pouvait comprendre l'information sans avoir jamais vu. Il a dû avoir un ajout de base de données instantané. C'est un grand miracle quand quelqu'un voit qu'il ne voyait pas. C'est un grand miracle. Mais ça nous encourage aussi, cette histoire-là, de savoir, Dieu veut que vous tous, vous soyez capables de voir qu'est-ce que lui voit. C'est ça mon message aujourd'hui. Vous voyez, je parle beaucoup avec les évolutionnistes, on a amené beaucoup au Seigneur même. Le fond, ce n'est pas qu'on montre qu'ils ont tort. Ça ne les aide pas à voir. Ce qu'on veut faire quand on évangélise, c'est qu'on veut que la personne commence à se poser des questions. Parce que pour que quelqu'un vienne au Seigneur, il faut qu'il vienne d'un choix de eux. N'est-ce pas? Si je viens avec, comme dans Constantinople, ou des fois l'Église catholique ou même anglicaine, tu crois ou tu meurs, c'est pas une croyance. Tu n'as pas choisi. Chaque personne à qui on parle, on partage la semence, la bonne parole. Il faut que ça vienne de eux, le choix. Donc, nous, ce qu'on veut faire, surtout, c'est d'être là pour susciter des questions. Challenger leur paradigme. Mais tu crois ça vraiment? On a évolué, mais comment on a fait pour évoluer les yeux exactement? Comment on peut évoluer un système qui prend le cerveau et les yeux et les paupières et il faut que ça marche tout d'un coup? Comment on peut faire pour faire ça graduellement? Moi, je dis pas « voici pourquoi », je dis « pourquoi ». L'information qu'on donne, c'est pour qu'on puisse répondre, là. Mais quand on dit « là, eux, ils vont dire « je ne sais pas. » Puis si le Seigneur est en train de travailler sur leur cœur, ça va simplement ouvrir une porte pour une discussion plus approfondie. Parce que là, il commence à reconnaître qu'il y a un Dieu créateur, qui est le début de tout ce cheminement-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé ce matin, ce petit partage. J'ai un peu mélangé, j'ai pas toujours fait ça ici, là. J'ai pas toujours mélangé un peu le côté théologique avec le côté scientifique, mais j'avais à cœur de faire ça ce matin. Et je crois que c'est utile pour les gens qui l'entendent, à réfléchir et méditer sur Bartimée et sur le miracle que Dieu a fait et que les yeux sont vraiment une puissante déclaration que Dieu est créateur et que dans comme Psaume 139, 14, qui dit « On est une créature merveilleuse » et ça devrait nous amener à adorer le créateur. Sérieusement, adorer le créateur. Est-ce que tu me permets de juste guider en prière? C'est ça? Oui, oui. Alors, j'aimerais qu'on prenne, juste tout le monde fermez vos yeux. On a parlé de voir, on a parlé d'éternité, on a parlé de Jésus qui a guéri, qui est fils de David et qui est venu pour nos péchés, qui est venu prendre notre place devant le Père. Le début de cette étape-là, c'est de reconnaître que Jésus était le Messie pour Barthémée. Puis j'aimerais donner l'opportunité à quiconque ici voudrait dire, moi je veux donner ma vie à Jésus. Je veux comprendre ma destinée, je veux aller, j'ai besoin de pardonner pour mes péchés. Et j'ai besoin de connaître ce Jésus qui guérit l'aveugle, ce Jésus qui m'aime tant, qui est allé à la croix pour moi. Qui dit que si on croit en lui, on aura la vie éternelle. Si vous voulez prier cette prière-là, une petite prière, juste lever votre main. Dis-moi, je veux t'inclure dans ça. Y en a-tu ici? Oui, je vois ta main. Y en a-tu d'autres qui veulent? Oui, je vois ta main. Tu peux le baisser après? Oui, je vois ta main. Y en a-tu d'autres? Alors, juste à votre place, tout simplement, c'est en toi puis le Seigneur. Juste répète ces paroles. Tout le monde peut le faire. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je demande pardon pour mes péchés. Et j'accepte ton pardon qui est venu par la croix. Jésus, transforme-moi. Change mon cœur. Et fais que je puisse voir avec tes yeux. Merci, Jésus. Amen. Pasteur.
Ah, si vous, merci beaucoup, Laurence. Est-ce que tu vas rester à dîner avec nous? Oui, ah, super. Donc, si vous avez des questions sur le message, des commentaires sur ce qui a été apporté, Laurence et moi, on va être là pour répondre aux questions là, à l'heure du dîner. Voilà, on arrive proche de l'heure du dîner. Donc, si vous restez, si vous êtes nos invités, c'est après.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.